Là, je sais faire Shemot. Ça commence par un rassemblement général où Moshe Rabbeinu fait un discours aux Bnei Israël et il leur dit: Ele advarim asher tziva Hashem la'asot otam. Voici les choses qu'Hachem a ordonné de faire. Ainsi dit que ce rassemblement, il a lieu le lendemain de Yom Kippour, c'est-à-dire quand Moshe Rabbeinu est redescendu avec les Louchot, le deuxième Louchot. Et donc, ce jour-là, donc il leur fait le lendemain, il leur fait ce discours-là. Et quel est le contenu, le premier contenu, et qui est le contenu de cette présenté de cette de ce rassemblement ici? Voilà ce qu'il leur dit. Sheshet yamim te'aseh melacha, uvayom ha'shvi'i, et le septième jour, yelachem kodesh, shabbat shabbaton l'Hashem, kol ha'osevo melacha yumat, lo tevaharuesh bechol moshevotechem biyom ha'shabbat. C'est-à-dire un discours sur le shabbat. Mais un discours sur le shabbat, qu'on avait déjà entendu de la part de Moshe Rabbeinu. Dans la parasha qui tissa, la parasha précédente, c'était un tout petit peu différent. C'était marqué Sheshet Yamim, Yehaseh Melacha. Ici, c'est marqué Tehaseh Melacha. Donc, il y a deux choses. On peut dire que l'accent, il est mis sur le fait qu'une Melacha soit faite, ou bien qu'on fasse une Melacha. L'accent est sur le Gavra, sur la personne à laquelle on dit ne fait pas de melacha, où l'accent est sur le résultat. On ne veut pas qu'il se produise Shabbat une melacha. La différence, c'est que si on dit à quelqu'un je ne veux pas que tu fasses une melacha, alors il va faire une melacha permise, c'est-à-dire il va faire la melacha avant Shabbat. Mais, par exemple, dans Bichoul, il y a un issour melacha de Shabbat de cuire. Bon, il va cuire quelque chose, cuire une purée de pommes de terre. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il remplit sa marmite de pommes de terre, de l'eau. Et il allume un feu et il met la marmite sur le feu. Il fait tout ça avant Shabbat. Mais il peut faire ça une seconde avant l'entrée de Shabbat. Et la chose va se cuire durant Shabbat. Mais lui, il ne le cuit pas pendant Shabbat. Donc si vous ne voulez pas qu'il se fasse une melacha, même Mouteret, je vais donner cet exemple-là, mais on peut aussi imaginer qu'il y a quelqu'un qui ait le droit de faire les mlachot. Mais il fait la mlacha Shabbat. Un goy qui fait la mlacha pour un malade. Bon, le goy, il a le droit de faire une mlacha, et en plus, c'est fait pour un malade, ils ont un malade qui en a besoin, etc. Donc, lui, il fait la mlacha même pendant Shabbat. Mais il n'y a pas de issour, parce qu'il n'a pas d'interdit de le faire, le goy. Mais il se fait bien une melacha pendant le Shabbat. Alors, la raison pour laquelle On va interdire, on va ne pas vouloir, en tout cas, qu'il se fasse une melacha, même permise pendant le Shabbat. Ça, c'est une exigence qu'on aura essentiellement dans tout ce qui tourne autour du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, ou si vous voulez, d'une certaine manière, dans certains cas, on peut penser que c'est pas le kavod de la chose que la chose se fasse pendant Shabbat, même si c'est pas interdit. Mais c'est entaché par le fait que ça s'est fait pendant Shabbat. Et il y a aussi on est intéressé à ce qu'il ne se passe pas de melacha pendant Shabbat, indépendamment de la notion de issour melacha. La melacha, elle existe, on peut la faire, elle peut se faire durant Shabbat. Mais dans certaines circonstances, on voudra ne pas que la mitzvah, que la melacha se fasse pendant Shabbat. Alors on peut considérer que c'est une exigence qu'on peut appliquer un peu partout, mais ça, c'est presque une sensibilité personnelle. Ou alors, dans certains cas, les Chachamim ont dit, le kavod de la situation impose qu'on fasse attention à ça. Maintenant, comme vous savez, cette paracha de Vayakhel, elle va nous parler essentiellement de la, et écoutez aussi, ça va nous parler de Mishkan, de la construction du Mishkan, des matériaux, etc., tout ce qui tourne, des choses qui tournent autour du Mishkan avec des redites par rapport à des choses qui ont été dites dans le paracha de Trouma ou dans Tetzaveh. Mais entre-temps, il y a eu une paracha qui dit ça, dans laquelle il y a le récit du veau d'or. C'est-à-dire qu'il y a un changement radical au moment du veau d'or. Quelque chose s'est passé au niveau du veau d'or. Quelque chose qui va changer complètement le clan Israël. On a vu que quand Akadosh Baruch Hu a pardonné après que Moshe Rabbeinu se soit investi pour sauver les Bnei Israël, Hachem a pardonné. Il a donné à Moshe Rabbeinu la possibilité, parce que Moshe Rabbeinu l'a demandé, il l'a obtenu, il a demandé que Hachem redonne les louchot. Donc Hachem a redonné les deuxièmes tables. Enfin, il a donné des deuxièmes tables. Mais en même temps, peut-être on en a déjà parlé, en même temps il a donné deux choses au clan Israël. Vous vous souvenez probablement. Il a donné au clan Israël un deuxième nom divin. Ce nom divin, il a été donné dans le cadre de ce qu'on appelle les Shloshesre Midot de Rachamim. Il y a les 13 mesures de tendresse. Donc certains disent Rachamim, ils disent que c'est Matriassi. Matrialité, parce que matriacité, pardon, matriacité, je m'en rappelle plus, c'est construit sur la matrice, parce que Rechem, qui est donc la racine de Rachamim, Rechem c'est l'utérus. Donc c'est la tendresse des profondeurs de. Alors Hachem a donné, il a donné ses midot au clan d'Israël, et il a enseigné à Moshe Rabbeinu que quand le clan d'Israël allait fauter, voilà ce qu'il faut faire. Il faut désigner un shliach tzibour qui va mettre son talit sur la tête et qui va réciter les Shlosh Esrei Midot. Et Hachem dit, et moi je pardonnerai. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté tout ça. Si je ne l'ai pas fait, j'aurais dû, mais bon. Ce qui va se passer, C'est qu'Hachem dit, ben, si vous récitez ça, moi je pardonne. Et on est un peu mal à l'aise, que ça veut dire, il y a un texte à réciter, et Hachem pardonne, c'est un petit moulin de la prière, on l'entend. Or, la vérité, c'est bien un petit peu ce que nous faisons, même pas un petit peu, beaucoup. À Yom Kippour, ce que nous faisons en dehors de la tfila, les tfilotes qu'on ferait à n'importe quel jour de jeûne. Et qu'est-ce qu'on fait? On récite des slichot, en fait. Qu'est-ce que c'est les slichot? Parce que les slichot, c'est la récitation des shloshesh midot. Vayavor, et Hachem, Hachem, qui est le Rachum. Et on récite ça pendant toute la journée de Yom Kippour. Dans le Moussar Sfarad, on le dit, je crois, 26 fois. Dans toute la journée dans les 25 jours, 25 heures de Kippour, on le récite 26 fois. L'Ashkenazim, c'est pas loin aussi, mais bon, ils font pas attention toujours au nombre de choses, mais on est aussi dans tout. Donc, vraiment, c'est ce qu'on fait. À Kippour, on récite les Shloshes Amidot. C'est ça la journée de Kippour, pratiquement. Parce que la tfila, on la fait tous les jours. Alors, il se trouve que c'est un jour de jeûne, donc il y a un peu plus de tfilotes que le reste du temps. Et puis, c'est un peu plus long parce qu'on a, dans la répétition de la Amida, on raconte ce qui s'est passé ce qui se passait au Beth Amikdash. À Yom Kippour, avec tout le processus de Kapara, avec le Kohen Gadol qui dit le vidouille en son nom, au nom des Kohanim, mais au nom du clan Israël, en s'appuyant avec le problème de Saïr la Azazel, de Saïr le bouc émissaire, comme on dit en français, etc. Tout ça, on raconte dans la répétition de la Shmoneh Esrei de Moussaf. Mais essentiellement, c'est les choses de Srimidot qu'on récite pendant. Donc, il nous a donné un moyen de prier après la faute. Mais ce qu'il a donné de plus grand, c'est que ces fameuses Shloshes Remidot, elles commencent par l'énoncé, ça commence Hachem, Hachem. Deux fois de suite, le tétragramme. Et on explique pourquoi il y a deux fois de suite. Une fois, c'est pour avant la faute, et une fois, c'est pour après la faute. Alors, je m'explique. Ils disent que une des significations du tétragramme, on dit que ça fait appel à la Midat HaRachamim, à la Midat de tendresse de la part d'Hachem, et on énonce le Shem Hachem. Le Shem Hachem, il veut dire, un des sens, c'est qu'il est le Adon Hakol, il est le maître de tout, et il est Haya Hoveh Veyeh. Il était, il est, il sera, et il est mehavé hakol, et il fait exister toute chose. Ça, c'est la kavana qu'on doit avoir de façon standard pendant le chemin, par exemple, quand on dit le Shem Hashem, le reste du temps, d'après le Gaon, il suffit de penser que Hashem, il est Adon Hakol. Il est le maître de tout. Et ce nom divin qui est Mehavé Hakol, c'est-à-dire qui fait exister toute chose, eh bien, il fait exister le premier nom divin, c'est le nom divin qui est dit au début, quoi, et celui qui est donné aussi dans Maaseh Bereshit, finalement. Et il fait exister toute chose. Tant que la chose en question ne se disqualifie pas complètement, c'est-à-dire ne faute pas radicalement. C'est pour ça que quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or, c'est une faute radicale qui fait que le nom divin ne les fait plus exister. Et c'est ce qu'Hachem a dit à Moshe, il lui a dit, laisse-moi, je vais détruire ce peuple et je vais recommencer un nouveau peuple avec toi. Ce qu'Hachem n'a pas, est-ce que Moshe n'a pas accepté? Et Hachem a donné un deuxième nom divin qui est exactement le même, mais qui, lui, nous fait exister même, il fait exister même les gens qui ont fauté. C'est ça la nouveauté, il nous a donné un nouveau nom divin. Il y a une nouvelle table, une nouvelle façon de prier, prier pour des gens qui ont fauté, parce que comment tu veux prier quand tu as fauté, de quel droit tu te tiens devant Hachem? Ah, écoute, je respecte pas la règle, mais je me tiens quand même devant toi. Et ne coûte pas, quoi, c'est tout. Et puis il a donné un deuxième nom divin. Il nous fait exister. Ça veut dire que c'est une toute nouvelle époque en réalité. Certains disent que cette nouvelle époque qui commence à Yetziat Mitzrayim, à la sortie d'Égypte, que c'est ça le fond de la Machloket. C'est un peu chassidique, mais bon. Il y a une Machloket dans la Gemara entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua pour savoir si le monde a été créé en Tishri ou en Nissan. Est-ce que le monde a été créé en automne ou au printemps? Rabbi Eliezer dit ça a été créé en automne. C'est Rosh Hashanah en automne. Et d'autres, et Rabbi Yoshua dit, c'était créé au printemps. Qu'est-ce que ça veut dire que c'était créé au printemps? Alors certains veulent dire, ça veut dire que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte, c'est la création du monde. C'est une recréation du monde. Un monde qui est structuré différemment, parce que maintenant, dans ce monde-là, il n'y a pas comme il y avait avant une espèce d'homogénéité de tous les peuples. Maintenant, il y a un peuple qui sort de l'ordinaire, qui est le peuple qu'Hachem a sorti de Mitzrayim, d'Égypte. Et il y a une relation particulière avec ce peuple. Qu'est-ce que c'est que cette relation particulière? C'est que il y a une notion qui s'appelle Eloah. Eloah, souvent c'est traduit par Dieu, mais j'aime pas le mot Dieu, ni dans sa version théos grecque, ni dans deus latin. D'accord? C'est pas de chez nous, quoi. Pour moi, c'est, mais bon, il faudrait peut-être pas le traduire, quoi, simplement. C'est des Elohim, c'est, alors, ce mot de Elohim en profane, il désigne toutes les forces, toutes les énergies. Et puis, il y a une hiérarchie de ces énergies. Il y a de ces forces, il y a des forces plus ou moins importantes. Bon. Et puis après, il y a un passage vers ce que nous on appelle Elohim. Pour distinguer, ça s'écrit exactement comme les Elohim profanes, mais nous, quand on sont en dehors de la prière ou des psukim, alors, on fait attention de ne pas le prononcer, enfin, on prononce Elohim au lieu de le dire comme on le dit quand on prie ou quand on dit les télims, etc. Ou c'est, ça se dit de la même manière que les Elohim profanes. Ça, c'est une hiérarchie existe dans le monde. Alors, il y a cette hiérarchie et Hazal dit que tous les peuples ont un Eloah, ou un Elohim si vous voulez. Tous les peuples ont un Dieu, tous les peuples. Pour moi, disons la traduction simple de le fait que tous les peuples ont un Dieu, c'est tous les peuples ont une culture. Une culture qui est donc C'est quoi la culture? Ben, c'est l'ensemble des éléments qui donnent une forme à tout ce qu'ils reçoivent. Si vous voulez, Hachem donne ses bénédictions et chaque peuple reçoit les choses à sa manière. Il les reçoit avec sa culture, culture alimentaire, culture théâtrale, culture musicale, culture avec ça il n'a pas le droit, mais avec ses divinités aussi, ils n'ont pas le droit, ils sont des Bnei Noach, les Bnei Noach, c'est interdit la Avodah Zara. Mais bon, ils ont quand même chacun leur divinité, etc. Les seuls qui n'ont pas de Dieu, de ce point de vue-là, c'est les Bnei Israël. Parce que les Bnei Israël, ils sont en prise directe sur Hachem. Les autres, ils passent, quand Hachem leur donne, ça transite par leur culture, si vous voulez. On ne donne pas la même chose. Quand Hachem donne quelque chose, ben les Français, disons, ils le reçoivent d'une certaine façon. Et les Russes, d'une autre façon. Et les Turcs, d'une autre façon. Chacun le reçoit à sa manière. Et tout. Tout l'art, les langues, tout ça est différent. Mais du coup, ça change complètement la façon de recevoir les mêmes choses, en fait. C'est-à-dire le rapport. Quelle est la forme de la famille, les relations de parenté qui existent dans les différentes cultures, etc. Les enfants, ce qui est important, c'est le père ou c'est le frère de la mère, ou, ça dépend des relations de parenté, quoi. Donc ça structure complètement chaque peuple. Et les seuls qui n'ont pas ce genre de structure, parce qu'ils reçoivent directement d'Hachem, ce sont les Bnei Israël. Et donc, en plus, on va dire que quand Hachem donne les choses au monde, il les fait descendre telles quelles, si on peut parler, sur les Bnei Israël, et ensuite, à partir d'Israël, ça diffuse dans tous les peuples, chaque peuple recevant avec son filtre spécifique, avec sa culture. Et ça, c'est le nouveau monde qui a commencé avec la sortie d'Égypte, avec la singularisation d'un certain peuple pour lequel HaKadosh Baruch Hu s'est investi et il l'a sorti d'Égypte. Sortir d'Égypte, ça veut dire sortir de l'ensemble des peuples, se distinguer de l'ensemble des peuples. Il faut bien comprendre ce dont il s'agit parce que le texte il dit que HaKadosh Baruch Hu, il est venu prendre Goy Mikerev Goy. Il a pris un peuple qui était au sein même d'un autre peuple. C'est-à-dire, c'est pas que les Bnei Israël étaient dans un creuset ou une bulle égyptienne. Ils étaient une partie du peuple égyptien. Ils étaient diffus une partie. Il a fallu. C'était pas du tout évident qu'Israël était. Il était tellement proche des Égyptiens que il n'y a que Hachem qui pouvait faire la distinction entre les Bnei Israël et les Égyptiens. Parce qu'ils étaient aussi idolâtres que les autres. Qu'il n'y avait pas de signe extérieur, ils faisaient plus les Égyptiens de plus, ni les Égyptiens ni les Bnei Israël à ce moment-là en Égypte ne faisaient la Mila, donc il n'y avait pas de mitzvah qui s'imposait à eux pour faire la différence. Ils étaient les Bnei Noach qui étaient idolâtres quand même comme les Égyptiens. Et puis ils ont fait les choses, ils ont pris des mœurs égyptiennes. Au point que la Torah, elle va leur dire, vous allez entrer en Eretz Israël, mais vous ne vous conduirez pas comme vous vous êtes conduit en Égypte, là où vous étiez en Égypte, et vous vous conduirez pas non plus comme se conduisent les Cananéens, le peuple dans lequel vous allez arriver et que vous allez devoir passer. Donc ça veut dire, il faut le mettre en garde, de pas prendre ces modèles-là. Parmi les goïms, il y a tout un éventail de modèles, et certains sont plus ou moins séducteurs à certains moments, où les Bnei Israël étaient très proches de des uns ou des autres. Vous avez eu à un moment donné les grandes parties, quasi la totalité du peuple, qui était très très proche des Grecs. Bon, ce qui a donné Hanouka, ou qui s'est révolté à Hanouka au départ, une petite famille, une mini-bande de terroristes, comme on aurait dit à l'époque. Les journaux de l'époque, c'était sûrement marqué que c'est les terroristes. Mais c'est Maccabim, là. Donc c'est tout à fait spécial. Et donc, certains disent que c'est ça la marque. Est-ce que le monde, est-ce qu'on garde comme création du monde la création du monde d'un monde homogène, d'une certaine façon, ou bien est-ce qu'on considère que désormais on est dans un nouveau monde qui a commencé, qui est né avec Yetziat Mitzrayim? C'est pas simplement d'après ça, c'est pas seulement le clan d'Israël qui est né à ce moment-là, ça c'est sûr. Même Rabbi Eliezer aussi sera d'accord que le clan d'Israël est né à ce moment-là. Mais Rabbi Yehoshua dit c'est le monde qui est né à ce moment-là. C'est un nouveau monde. Le mot nouveau monde, il est très usé, très utilisé, je veux dire. Pour les Européens qui sont arrivés en Amérique, c'est vraiment un nouveau monde. D'accord, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait, ils ont nommé New Amsterdam, New York, New Jersey, tout, ils ont repris les noms, les anciens noms, et puis ils ont mis nous devant. Nouveau, nouveau, nouveau. Donc, les Bnei Israël sortent de Mitzrayim et ils entrent dans un tout nouveau monde. Et là, mon cher Rabbeinu les met en garde et leur dit, voilà, voilà des choses qu'Hachem vous dit. Bon, vous l'avez déjà entendu, c'est dans la Aseret HaDibrot, etc. C'est tellement fondamental que mon cher Rabbeinu commence son exposé, enfin son discours, en parlant du Shabbat. Et alors, les Mefarshim, le Emet Davar, etc., ils font remarquer que c'est marqué dans le texte. Donc, Sheshet Yamim Ta'asem Lacha, Uvayom HaShvi'i, le septième jour, Yeh Lachem Kodesh, Shabbat Shabbaton Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire Yeh Lachem Kodesh? Normalement, on aurait dû dire Uvayom HaShvi'i, Uyom HaShvi'i Kadosh. Yeh Lachem Kodesh, ça veut dire c'est ce jour-là, vous vous conduirez de façon Kodesh, de façon sainte. On ne parle pas ici de la Kedusha du Shabbat. Mais c'est vous qui devez vous conduire de façon Kedusha ce jour-là. Comment est-ce qu'on se conduit de façon Kodesh? Kodesh, ça veut dire séparé. Donc la première chose, c'est Shabbat, on va se conduire différemment des autres jours. Alors, ça c'est indépendamment des halakhot, des interdits ou des obligations positives. Indépendamment de tout ça, il y a une nécessité de faire de Shabbat un jour différent, un jour où on se conduit différemment. Tout doit être différent Shabbat. C'est-à-dire, on ne s'habille pas de la même manière, on ne mange pas de la même manière, on ne parle pas de la même manière. Et tu peux ajouter tout ce qui te passe par la tête de vouloir faire Shabbat différemment, fais-le. Singularise le Shabbat. Alors, pas de mauvaise façon, mais de belle façon. En Ensuite, dans toute la Torah, quand on parle du Shabbat, on dit toujours, il y a ce jour-là, vous ne ferez pas de melacha. Sans que jamais dans la Torah, on ait défini ce que c'est une melacha. Qu'est-ce que c'est une melacha? Même si tu traduis melacha Shabbat, melacha travail, qu'est-ce que c'est un travail? C'est quoi un travail? C'est quoi du travail? Tu ne travailleras pas Shabbat. Dans les halakhot de Shabbat, si vous passez la journée à transporter ces tables dans le petit Beth Amidrash, et puis retour dans ce Beth Amidrash, toute la journée vous transportez ces tables, les tables ne sont pas moutsées, vous n'avez rien transgressé le Shabbat. Vous pouvez être complètement épuisé après le Shabbat, mais vous n'avez rien transgressé. Par contre, si vous avez la mauvaise idée de sortir dans la rue avec un petit morceau de nourriture un peu dans la bouche, comme ça, si on vous avertit et tout, vous êtes très mita. Pourquoi? Vous avez fait une melacha. Par contre, transporter tout ça, c'est pas une melacha. C'est quoi la définition d'une melacha? C'est quoi? Alors, on a construit très acrobatiquement, on peut dire. On a décidé qu'il y avait 39 melachot. Pourquoi 39? Parce que dans le passouk, c'est marqué Ve'ele Advarim. Alors, Ve'ele en gematria, c'est 36. Dvarim, c'est 2, c'est un pluriel, donc c'est 2, ça fait 36 et 2, 38. Et le hé de Radvarim, il compte pour 1, donc ça fait 39. Voilà. Voilà pourquoi votre fille est muette. D'accord? Voilà, c'est ça la construction des 39, 39. Bien entendu, Alpisod, ça a toutes sortes d'autres implications, mais c'est comme ça que c'est défini dans la Gemara. OK, 39 travaux, mais lesquels? Il n'y a pas de liste dans la Torah des 39 travaux. Vous pouvez regarder, hein, de Bereshit jusqu'à Zot HaBracha, il n'y a pas de liste. Alors, comment on fait? Alors, il se trouve que la paracha de Shabbat, elle est juxtaposée à la paracha qui nous parle du Mikdash, du Mishkan, pardon. Des travaux qui sont faits pour construire le Mishkan. Alors on va dire voilà, construire un travail, c'est quoi? Moi j'aurais tendance à dire que le mot malacha, ça ressemble beaucoup à un féminin du mot malach. Bon, le mot malach, c'est un ange. Et qu'est-ce que c'est un ange? Un scoop là, c'est pas marqué non plus dans la Torah. Un ange, c'est une parole d'Hachem. Hachem donne un ordre. Alors, ça s'appelle, il a fabriqué un ange qui est porteur de, qui va veiller à ce que cet ordre se réalise. C'est ça un malin. Il a une tâche, mais c'est pas une tâche extérieure à lui. Il est cette tâche. Il n'existe pas en dehors de cette tâche. Et quand il a, donc il est créé, quand il est créé, il reçoit son être, c'est d'être cette tâche, il va la faire, ensuite il va revenir et faire son rapport, voilà, j'ai fait ce qui m'a été demandé, et il disparaît. Mais en général, il est remplacé par un autre malach immédiatement, donc à la limite, ça se régénère sans ça. Mais un malach, il fait qu'une seule chose. On voit des malachim qui sont venus chez Abraham Avinu. Pourquoi il y en a trois? Pourquoi il ne pouvait pas en envoyer un seul faire le job? Non, parce qu'il y avait trois choses à faire. Il fallait annoncer la naissance à Sarah, il fallait détruire Sodome et il fallait guérir Abraham de la Mila. Bon, donc ils sont mis à trois. Alors. Si la mlacha, c'est une espèce de féminin, Ça veut dire c'est quelque chose qui construit le monde d'Hachem. Les malachim, c'est construire le monde d'Hachem. Il véhicule les ordres d'Hachem dans le monde, donc Hachem construit son monde en permanence. Eh bien, les travaux, c'est justement des travaux qui construisent le monde. Le monde, c'est la résidence d'Hachem. Hachem a décidé de, il est partout, il veut résider dans le monde d'en bas. Partenim dans le monde. Et pour résider dans le monde d'en bas, dans le monde, il a créé un monde dans lequel il va pouvoir résider. Comment il va résider? Ben, il veut être reconnu dans ce monde comme en étant le roi de ce monde. Il va demander aux hommes de le reconnaître comme le roi de ce monde. Et ce monde-là, puisqu'il est résidence d'Hachem, alors, quand les Bnei Israël reçoivent un ordre venant d'Hachem de lui construire une résidence, alors ça veut dire que cette résidence, d'une certaine manière, c'est un monde en petit. Le Mishkan, la résidence d'Hachem, a la même fonction que le monde, à savoir être résidence divine. Hachem a plusieurs résidences, il y a le monde, mais en particulier, il demande au Bnei Israël, faites-moi une résidence parmi vous. Une résidence dans le monde, qui est le monde, et puis je veux une résidence qui m'est faite par les Bnei Israël. Alors, ça veut dire que le Mishkan, d'une certaine manière, il est comme le monde. Et donc, ce qui construit le monde, c'est la même chose que ce qui construit le Mishkan. Alors, on va prendre comme modèle des melachot. Qu'est-ce qu'une melacha? Ben, c'est un geste qui construit le monde. Et pour savoir que c'est un geste qui construit le monde, on va regarder. Les gestes qui construisent le Mishkan étaient des gestes qui servaient à construire le monde en petit. Et donc, il a fallu faire une analyse des obligations qui sont faites, des façons dont Hachem a ordonné de fabriquer le Mishkan et en tirer 39 melachot. Alors ça, on ne sort pas les 39 parce qu'il y a aussi des choses qui sont fondamentales, c'est toutes les melachot qui sont nécessaires pour, par exemple, pour la fabrication du pain. Pain, c'est la nourriture de l'homme. Il y a toutes les melachot qui vont depuis les semailles, en passant par les moissons et le travail du blé, de la farine et de la fabrication de la pâte, de la cuisson, etc. Tout ça, ce sont des melachot. Battre le blé, enfin, toutes ces étapes-là sont aussi des melachot interdites pour faire le. Tout ça s'appelle les 39 melachot. Donc maintenant, on sait ce que c'est qu'une melacha et on sait qu'il y en a 39. Mais dans la Torah, est-ce que dans la Torah, il y a un exemplaire d'une mitzvah? Alors curieusement, il n'y en a qu'une seule. Et c'est celle qu'on va lire là, enfin, c'est celle qu'on lit. D'accord? Lo tevaharu esh b'chol moshevotechem. Vous ne, c'est le verset numéro Gimel, ouais, le troisième passouk de la paracha. Lo tevaharu esh b'chol moshevotechem b'yom haShabbat. Le jour de Shabbat, vous ne n'allumerez pas de feu b'chol moshevotechem dans toutes vos résidences. Alors, cet interdit de faire du feu. Alors, c'est un peu particulier parce que le feu, c'est un truc tout à fait spécial. Parce que dans l'analyse ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les melachot de Shabbat. Ce sont des melachot qui construisent, mais elles doivent être faites de la façon parfaite. C'est-à-dire, une melacha doit être faite comme elle est faite par les artisans spécialistes et pas par les amateurs. Par conséquent, dès que vous faites une melacha de Shabbat et que vous ne la faites pas exactement comme elle doit être faite, parce que, par exemple, vous faites ce qu'on appelle un petit chinouï, vous faites une différence. Comme je dis toujours, moi, par exemple, je crois que moi, je peux planter un clou Shabbat sans transgresser Minatora. C'est interdit, mais les Rabbanan, mais comme je ne sais pas tenir un marteau, même si je prends un marteau et on voit tout de suite que je tiens pas un marteau comme un artisan tient le marteau. Donc, même si j'arrive à planter le clou, je suis sûr que c'est seulement un issour des Rabbanan. Et c'est la même chose. Tout ce que vous allez faire de façon non artisanale, c'est un issour des Rabbanan. Minatora, il n'y a que les malachotes faites selon les règles de l'art qui sont considérées comme des malachotes. Par exemple, si quelqu'un est droitier et il fait tel et tel geste avec la main droite, alors ça, c'est de raïka. Mais s'il le fait simplement avec la main gauche, il n'est pas gaucher, mais il le fait avec la main gauche. Et il arrive bien à le faire. C'est déjà pas de raïka. C'est pour ça que les gens s'étonnent un peu en face des chinouillés, ils ont l'impression que c'est un truc. C'est pas du tout un truc. C'est que la Torah n'a interdit que les travaux qui ont été faits selon les règles de l'art. Tu fais pas les choses selon les règles de l'art, mais c'est pas vraiment un travail. Parce que bien entendu, un tel travail n'aurait pas été accepté dans la construction du Mishkan. Ensuite, ça doit être constructif et pas destructif. Alors, par exemple, on n'a pas le droit d'écrire Shabbat. Pas écrire. Pas écrire de lettres. Mais du coup, on n'a pas non plus le droit d'effacer Shabbat. C'est le contraire d'écrire. Effacer une écriture. Mais on ne transgressera dans l'effaçage, on ne transgresse le Shabbat, Minatora toujours, que si on efface pour pouvoir écrire à la place de ce qui a été effacé. Mais si vous effacez simplement pour que ça n'y soit pas, c'est pas un issour de raïta. Parce que ça s'appelle détruire, c'est tout. Si vous détruisez pour permettre une construction, alors, dans ce cas-là, c'est une melacha. Mais si votre destruction est purement destructive, alors c'est pas une transgression minatora. C'est interdit minérable, mais c'est pas une interdit. Alors, par exemple, celui qui cassait la vaisselle, par exemple, n'a pas le droit de casser la vaisselle. Et bien, si vous cassez la vaisselle, quand vous êtes en colère, vous cassez la vaisselle, bah, c'est pas de raïta, alors, si on a dit. On a dit que si, parce que quand quelqu'un casse la vaisselle quand il est en colère, alors ça l'apaise, donc ça le construit. Donc, il faut pas casser la vaisselle le Shabbat quand on est en colère, ça s'appelle un tikkun, ça s'appelle pas une destruction. C'est juste pour savoir. Et donc tout ça, c'est des choses bien connues probablement, mais faut juste s'en souvenir. Et alors la question c'est ce travail-là est mis en avant? C'est le seul, il n'y a pas d'autre exemple. Le problème, c'est qu'on a affaire avec le feu ici. Or, le feu, c'est quelque chose qui, effectivement, sert à énormément de choses constructives. Le forgeron, il utilise le feu pour toutes sortes de choses, et on l'utilise pour souder, on l'utilise pour construire toutes sortes de choses. Mais essentiellement, le feu, c'est destructeur. Et par conséquent, si vous allez... On n'a pas le droit de fabriquer du feu, on ne peut pas non plus éteindre un feu. Donc si vous éteignez le feu, ben, c'est destructeur. On ne connaît pas Hayat. Donc si La destruction du feu produit quelque chose de positif. C'est ce qu'on dit dans Mamma Mabikin. Si tu produis du charbon, enfin du noir en éteignant les mèches, tu éteins une mèche, ça produit du noir avec laquelle on peut faire de l'encre ou des choses comme ça c'est constructif. Donc ça, éteindre pour ça c'est interdit parce que tu construis quelque chose. Et si tu éteins pour éteindre, c'est assourd, même une rabanane. C'est pas un issour de raïta.
C'est parce que c'est constructif parce que la mèche,
Pécham,
les
que
femmes,
tu
c'est pour
fabriques
allumer,
du charbon,
on arrive mieux.
ou bien parce que pour rallumer mieux, ou bien parce que ce noir-là produit quelque chose qui a. Le pécham, c'est un noir utile pour écrire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Shabbat ici, les halakhot de Shabbat sont dites avant les halakhot de construction du Mishkan. Or, si vous voulez, on est dans un conflit. D'un côté, la Torah, elle dit, tu n'as pas le droit de faire de Malacha Shabbat. Et d'un autre côté, la Torah, elle dit, tu dois construire le Mishkan. Alors, il y a, dans Chazal, une Hava Amina, on aurait pu penser, et c'est contre cela que Moshe Rabbeinu vient parler ici, on aurait pu penser que dans la construction du Mishkan, durant la construction du Mishkan, on peut être Mechalel Shabbat. On travaille pas pour soi, on travaille pour la construction de la résidence d'Hachem. Alors, on pourrait très bien dire, ça c'est, même dans le texte, c'est marqué, dans vos résidences. Mais là, c'est la résidence d'Hachem. Donc, je pourrais très bien imaginer que je peux faire une mlacha pour la résidence d'Hachem. Pour construire. Mais bon, alors même, Moshe Rabbeinu a dit le Shabbat avant le Mishkan pour dire attention. Le Shabbat est fondamental. Il est hors de question de transgresser Shabbat, même pour construire la résidence d'Hachem, même pour construire le Mishkan. Et de facto, il y a d'autres textes où l'ordre est inversé, où le Mishkan est dit avant le Shabbat. Mais ici, Moshe Rabbeinu nous dit, ne vous trompez pas, le Shabbat est plus important que le Mishkan. Alors, c'est la construction du Mishkan. Parce que dans la Avoda, tous les Shabbats, on était Mechalel Shabbat dans le Beth On faisait la Shrita. Et on brûlait des viandes, de l'Holocauste, des Holot, le Shabbat, des Korbanot de Shabbat. Alors, il y avait d'autres choses, mais il y avait ça, par exemple, les Shabbatot. Ça veut dire, dans le fonctionnement du Mishkan, il y avait des choses qui étaient les transgressions du Shabbat. Mais dans la construction du Mishkan, il n'y a pas de transgression permise. Voilà, bon, on va s'arrêter là.